Le vent soufflé de grains de sable, un panoramique insatiable, coulissant d'envers en endroit. Une aspérité longitudinale, un pont l'évêque miroitant, un arc-en-ciel phénoménal, piétinant le soleil couchant.
Terre à terre en Bretagne, ce matin, promenade au fil de l'Élorne.
Bon, je lis alors.
Hein? Oui.
Jeannette aura les yeux de son père, le nez de sa mère, des nitrates dans son biberon et des algues vertes sur sa plage.
Ça, c'est une très jolie publicité.
Ah oui, oui, oui. C'est le détournement d'une publicité qui avait été faite par la région Bretagne dans le cadre du programme qui s'appelle Bretagne au pur. Et on voyait justement une petite Jeannette comme ça, qui avait aussi les yeux bleus, et qui disait, c'était Jeanne, celle-là, Jeanne et nous, les yeux de son père et le nez de sa mère, elle s'appelle Jeanne, comme tous les enfants, elle va hériter de ses parents certaines caractéristiques, etc., etc., etc. Et c'était pour nous expliquer qu'il fallait, bon, quand même, protéger l'environnement. Mais ça nous semblait un petit peu, le cours du texte était un peu mensonger. Alors le texte de l'affiche qui a été faite par Haut-Rivière disait « Malgré plus de 310 millions d'euros dépensés depuis 1993, la pollution des eaux bretonnes n'a pas reculé. Pour tenter de faire croire qu'on s'y attaque vraiment, les programmes et les campagnes publicitaires payées par les contribuables se succèdent. » Le rapport de février 2002 de la Cour des comptes l'affirme, ces programmes ne se sont guère efforcés de réduire les pollutions agricoles à la source. Ils ont le plus souvent pris la forme d'incitations à mieux faire, dans l'espoir qu'une modification progressive des pratiques éviterait de devoir faire respecter une réglementation qui demeure à ce jour largement lettre morte. Le principe selon lequel celui qui pollue doit payer est resté inappliqué.
Voilà. Donc, où est-ce qu'elle est parue, cette publicité ?
Elle est parue dans le journal d'Haut-Rivière, et puis elle a été sortie en affiche aussi. Ça a voulu quelques petits problèmes, d'ailleurs, à l'association Haut-Rivière. Il y a eu une menace de plainte, même pour des tournements de publicité. Mais comme c'est une association qui est quand même solide, je crois qu'ils ont renoncé, parce que ça aurait été de leur faire de la publicité, au contraire, quoi. Puis elle est splendide, quoi. Hein.
Splendide.
Ouais, la petite avec ses yeux bleus. Elle est splendide, c'est la petite fille Jeannette d'un militant de l'association, justement.
C'est vrai que dès qu'on quitte la commune de Cizun, on s'aperçoit, on voit des champs qui font certainement plusieurs dizaines d'hectares et encore on ne voit pas l'autre penchant du champ où il n'y a plus un talus alors qu'on est sur une zone de pente avec à 150 ou 200 mètres une rivière qui alimente en eau potable 400 000 consommateurs avec des risques en plus d'inondation. C'est encore un autre problème qui n'est pas lié directement à la qualité de l'eau, mais c'est un problème récurrent ici. Et chaque fois qu'il y a des gros phénomènes pluvieux, on assiste à des inondations sur le bas de la vallée.
Les talus continuent à être arrasés.
Les talus continuent malheureusement à être arrasés, et pourtant on sait que tous les techniciens disent qu'il faut à tout prix essayer de ralentir l'arrivée de l'eau en la gardant le plus possible en amont. Alors il y a aussi des techniciens technocrates qui disent qu'il faut construire des barrages partout. Non, ça c'est ce qu'on appelle le principe de la fausse bonne solution. Parce que les barrages, une fois qu'ils sont pleins, ils sont pleins. Hein. Le mieux, c'est de ralentir l'eau. Et on sait que les talus, aujourd'hui, permettent à l'eau d'arriver très très lentement en fond de vallée. Et justement, on arriverait à résoudre une partie des inondations, certainement, si on avait des programmes de reconquête du maillage bocager ici, dans notre région.
Secteur ici qu'on a fait des opérations de reconstruction de talus. C'était, on avait mobilisé, je ne me rappelle plus, 50 personnes pour reconstruire un talus à l'ancienne sur une parcelle qui avait été justement remembrée. Et l'agriculteur, lors du remembrement, s'était opposé au remembrement. Et il avait été emmené manu militari par la gendarmerie qui l'avait enfermé. Pendant que les tracteurs arasaient son talus.
Alors, disons de l'ordre d'une vingtaine d'années après, on s'était souvenu de ce champ qui était au-dessus de la rivière. Et on avait fait une opération de reconstruction. Parce qu'il existe même des gens maintenant, en particulier un enseignant.
Comment ? Et il était là cette fois ?
Il était là, l'agriculteur ? Oui, oui, bien sûr, il était fier. Hein. Ah oui, il en était fier. Et puis, on a fait quelque chose de beau parce qu'il y a des gens qui se sont mis à refaire des talus à l'ancienne. Il y a même eu des écoles de talus. Un ancien enseignant d'une école d'agriculture, justement, quand il a pris sa retraite, a relancé ça, l'école de talus. Il y a aussi un professeur de breton qui a relancé quelque chose comme ça, rien que pour récupérer parmi les vieux agriculteurs tout le vocabulaire des outils et puis des éléments naturels, des mottes, des plantes et tout ça qu'on trouve dans les prairies. Et il a fait un petit ouvrage en breton sur la reconstruction des talus dans les différentes régions de Bretagne, parce qu'il n'y a pas deux régions où les talus se font de la même façon. En plus, c'est tout un savoir-faire qui dépend justement du paysage, qui dépend de l'endroit où on se trouve, quoi.
Voilà, on est sur un site, c'est la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. On devine les vestiges de ce qui était un talus, qui était en fait, il faisait un angle droit, on le voyait ici l'entrée, il repartait vers l'angle du talus qu'on voit là-bas, on voit d'ailleurs à l'endroit où ils se rejoignaient tous les deux. Oui. Donc ça, c'est les talus qui ont été rasés il y a 4 semaines, je crois. Il y en avait un autre ici aussi qui descendait jusque dans le fond du vallon, là. Et on s'aperçoit que c'est des talus qui ont vécu, quoi. Alors... voilà, encore des talus en moins, c'est un peu dommage. Et on voit le champ à côté complètement grillé aux produits chimiques, le fameux Roundup, très présent dans les spots publicitaires à la télé. Et on voit les dégâts que ça fait avec des couleurs vraiment affreuses à cette époque-ci de l'année. Et c'est vraiment cette utilisation de pesticides est devenue généralisée dans nos campagnes. Alors, la profession agricole nous dit que de toute façon ça pollue pas parce que les pulvérisateurs sont maintenant bien réglés. Le problème, c'est pas tellement que les pulvérisateurs soient bien réglés ou pas réglés, c'est que bien réglés ou pas bien réglés, l'utilisation même des pesticides pollue de toute façon. Donc tant qu'on utilisera des pesticides, il y aura des pesticides dans l'eau et notre eau sera polluée par les pesticides et les nitrates.
C'est vrai que c'est les couleurs d'automne, hein.
Eh oui, c'est des belles couleurs orangées et il faudrait que le grand public se rende compte réellement que ce qu'on voit, c'est pas la couleur naturelle de l'herbe. La couleur naturelle de l'herbe, elle est ici à droite avec des vaches en train de paître. Et cette couleur-là, tout grillée, c'est pas naturel du tout, du tout, du tout. Alors ce qui est dramatique, c'est que parfois on arrive, comme on va le voir un petit peu plus loin, à voir carrément même le fossé grillé. Alors le fossé, c'est censé aussi récupérer les eaux. Les eaux d'écoulement, les eaux de ruissellement et bien entendu tous les intrants qui vont avec, comme on le voit ici, où le talus a été, où le fossé est complètement grillé aussi au Roundup. Alors, faut savoir pourquoi.
On voit carrément les traînées brunes sur l'herbe verte. On voit exactement là où ça s'est écoulé.
Ah oui, tout à fait. Ouais, le produit est vraiment très très puissant. Il est fait pour griller. Alors, il grille vraiment. Alors, ça pose un autre problème. C'est tout le problème de la chaîne alimentaire. On sait aujourd'hui, par les ornithologues, qu'il y a de moins en moins d'hirondelles. Il faut savoir que tout est lié dans la nature. Et que l'utilisation systématique de produits comme ça, phytosanitaires, comme on le voit encore ici, tue non seulement l'herbe, mais tue aussi sans doute, certainement même des insectes qui se nourrissent d'herbe. Alors, s'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux. S'il n'y a plus d'oiseaux, dans d'autres secteurs, il va y avoir encore plus d'insectes. Donc on va être encore plus tenté d'utiliser des produits phytosanitaires pour lutter contre les insectes. Et c'est en fait un cercle vicieux, quoi. Là, on voit encore un petit peu plus loin. Là, c'est le summum de ce qu'on voit en matière d'agriculture raisonnée intensive, où il y a un champ grillé au Roundup et un grand tas de fumier dessus. Ah, c'est essentiellement du maïs qui pose aussi un autre gros problème, c'est le problème des aides agricoles sur lequel on pourrait revenir tout à l'heure. Il faut savoir aujourd'hui que pour un hectare de maïs planté, les agriculteurs touchent environ allez, je vais parler en francs encore, 2400 à 2500 francs pour planter un hectare de maïs. Pour planter un hectare d'herbe, il touche entre 300 et 400 francs, c'est-à-dire 8 fois moins. Moi, si j'étais paysan, je continuerais à planter du maïs. Hein. Ça, c'est certain. On n'a qu'à inverser les aides et je pense qu'on arrivera en plus à lutter contre la pollution des eaux parce que l'herbe pollue beaucoup moins que la plantation de maïs. Le maïs, c'est une agriculture polluante, une culture polluante.
Mais on va vous répondre qu'on ne plante pas pour les eaux, mais pour d'autres usages et que l'usage de l'herbe n'est pas l'usage du maïs et vice-versa.
Oui, peut-être. Jusqu'à présent, des études ont été faites, notamment par certains agriculteurs, qui montrent aussi qu'on peut très bien avoir une excellente rentabilité et faire de très très bons élevages en cultivant l'herbe et non pas le maïs. Voilà, ici encore une autre parcelle sur laquelle l'année dernière, deux talus ont été rasés. Et l'année dernière, il y avait déjà du maïs dedans et cette année, il y en aura encore. Là, on est à la source d'un ruisseau, là.
Donc, ça va aller directement dans l'eau, tous les intrants?
Ça ne va pas aller directement parce que ça s'infiltre d'abord dans les sols, mais on sait que ça arrive inévitablement dans l'eau, sinon on n'en trouverait pas. Le problème de ces épandages de pesticides ou de lisiers, c'est que quand ils sont faits dans de bonnes conditions, on peut considérer qu'il n'y a pas... qu'il n'y a pas trop de danger, mais le problème c'est que c'est souvent fait sous la pluie, voire en période de gel pendant l'hiver, même si la Bretagne ne connaît pas de grand froid, on arrive à avoir des périodes de gel, et moi j'ai vu des épandages de lisiers sous la neige par exemple.
Guillemaout, on a continué notre promenade pour voir un autre champ grillé qui vous mettait particulièrement en colère parce que ça se passait sur votre commune.
C'est vrai que je le ressens directement, mais c'est l'utilisation généralisée sur tout le territoire breton et d'ailleurs sur tout le territoire national qui est un petit peu énervant, quoi, tout simplement.
Oui, mais c'est surtout que ça a eu des conséquences pour vous, personnelles. Que vous nous avez raconté en micro, vous ne voulez pas en reparler ?
Si, en fait, c'est pas tellement l'utilisation de pesticides qui était en cause. C'était un problème de pollution d'un affluent de l'Élorne qui a eu lieu il y a à peu près 2 ans de ça, suite à un épandage de lisier sur une parcelle interdite à l'épandage. D'ailleurs, c'est un courrier qu'on avait reçu du préfet. Et l'éleveur avait été condamné par le tribunal correctionnel de Brest, sur le plan pénal et sur le plan civil, d'ailleurs. Et c'est vrai que cette condamnation a fortement déplu... À mes voisins dans la commune où j'habite. Et il y a eu une manifestation de soutien en février 2003 dans le bourg de la commune où c'est vrai que les responsables de l'association, notamment moi et puis le président, on avait été voués à la vindicte populaire, insultés et menacés d'être aspergés de lisier dans notre maison. Mais c'est pas le genre d'attitude ni de discours qui ont tendance à nous faire peur ni à nous faire fléchir, bien au contraire. Bien au contraire, parce que c'est quand même pas ceux qui sont pollués aujourd'hui qui doivent se sentir responsables de quelque chose, ça serait quand même plutôt aux pollueurs. Et force est de constater qu'on est de ce côté-là très très loin du compte.
Et puis on a continué votre lecture du paysage, qui est effectivement tout à fait instructive. Là, on est au bord d'une rivière. Gérard Borvon, vous l'aimez beaucoup cette rivière. Vous dites que c'est... la plus jolie de Bretagne.
C'est vrai. Bon, bien sûr, on est un peu chauvin, hein, mais disons que sur toute une partie, c'est pratiquement un petit torrent montagnard. Alors évidemment, la montagne en Bretagne, ça fait sourire, mais
il y a une pente. Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir en même temps. Et donc, on a quelque chose qui est vraiment superbe, quoi. Hein. Bon, alors la première partie de la rivière, c'est vrai, parce qu'après, elle a subi de graves graves dégâts. Mais on trouve des étrangers qui viennent chez nous, par exemple des Irlandais ou des Écossais, donc ils sont, eux, dans des régions particulièrement préservées, hein, et qui retrouvent chez nous des paysages qui leur rappellent leur Écosse et leur Irlande, hein, à condition qu'on monte justement du côté des Monts d'Arrée, quoi. Je pense qu'on a une très très belle rivière, c'est vrai. Hein. Puis c'est une des meilleures rivières à saumon de France, hein, certainement, hein, qui rapporte ici, qui amène ici un nombre important de pêcheurs d'ailleurs. Hein. Mais ça, Guilmaout en parlerait mieux que moi. Parce que...
C'est aussi une rivière qui alimente en eau potable le Finistère.
Ah oui, oui, c'est une rivière très très importante à ce niveau-là, puisque... On dit qu'à peu près un Finistérien sur trois est alimenté en eau potable par cette rivière, qui est quand même un petit cours d'eau, donc qui alimente environ entre 350 et 400 000 consommateurs en eau potable.
Regardez comme c'est drôle.
Ça, c'était le TGV.
Eh oui, voilà, on est là en train de regarder cette très jolie rivière, ouais. Un peu droite quand même, mais et juste à ce moment-là, le TGV passe.
Il y a 15 mètres de la rivière.
Oui, il y a des explications à cela. D'ailleurs, il faut savoir que la ligne de chemin de fer, c'est la ligne Paris-Brest. Et quand elle a été construite à la fin du 19e siècle, la rivière telle qu'on la voit maintenant était en fait de l'autre côté de la voie de chemin de fer. C'est pour ça qu'elle a un peu cet aspect rectiligne ici sur son cours inférieur, qui effectivement n'est pas très très joli, très très joli. Et c'est vrai qu'elle a été un petit peu déviée à cause de la construction de cette voie de chemin de fer. Certains pêcheurs extérieurs la traitent d'ailleurs de rivière des feignants, parce qu'elle est enclavée entre la route départementale et la voie de chemin de fer, à peu près à 10-20 mètres de chaque côté. Donc c'est vrai qu'elle est très facile d'accès. Mais cela dit, c'est pour la petite histoire, ça reste quand même une superbe rivière pour la pêche, tant pour la truite, mais aussi pour le saumon, puisque... comme la capture de saumon est obligatoire en France, bon an mal an, les Lornes se classent, disons, parmi les 5 meilleures rivières de France pour la pêche du saumon.
Et alors, en tant que pêcheur, justement, la qualité des rivières, c'est quelque chose qui vous importe terriblement.
Oui, c'est tout le paradoxe qu'il est parfois difficile d'expliquer entre ce qu'on a vu tout à l'heure et ce qu'on va peut-être voir encore dans l'après-midi. C'est tous les problèmes liés à la pollution et malgré tout, une rivière très riche en poisson. Il est vrai que la pollution des années 60 a complètement disparu, où on voyait les abattoirs et les usines agroalimentaires déverser leurs effluents directement dans la rivière. Ça, c'est des choses qu'on ne voit plus maintenant. Et c'est d'autant plus pernicieux, c'est que la pollution diffuse, notamment d'origine agricole, on ne la voit pas. Les pesticides, les nitrates, on peut regarder la rivière à la loupe, on ne les verra pas dans la rivière. Donc c'est toute la difficulté d'expliquer au public que la rivière, c'est quelque chose de très très précieux, c'est pas parce qu'on ne voit pas la pollution, c'est pas parce qu'on voit des saumons sauter ou des truites gobées que la rivière n'est pas polluée. Donc c'est toute la difficulté d'expliquer et c'est toute la difficulté de lutter contre ce type de pollution d'ailleurs.
Une anecdote sur les nitrates, par exemple, cette petite rivière, on considère qu'elle doit véhiculer en gros 10 000 tonnes de nitrates par an qu'elle apporte à la rade, 10 000 tonnes. Alors quand on fait le calcul, c'est de l'ordre de 30 tonnes par jour, ça. C'est comme si on avait deux gros camions de 15 tonnes de nitrates là, qui étaient régulièrement, tous les jours, déversés dans la rivière. Alors, quand vous voyez la rivière, elle fait moins de 10 mètres de large, elle fait 1,50 m de profondeur, même peut-être pas, ici. Voilà ce que ça donne. Or, cette rivière, elle approvisionne l'ensemble de la population brestoise et puis tout le reste du Nord Finistère, parce qu'au fur et à mesure, on a abandonné les captages dans le Nord, les forages, parce qu'ils étaient trop pollués. Alors les maires les abandonnent au fur et à mesure et puis ils se raccordent sur l'usine de Pont-Narbled à côté qui fournit en eau la région brestoise.
Il y a donc traitement de cette eau-là?
Ah oui, alors effectivement, c'est une eau jusqu'à présent qui n'est pas traitée pour les nitrates, parce qu'on arrive à des taux qui restent inférieurs à 40 mg. Mais il y a un projet de traitement et c'est une des raisons de mobilisation ici de plusieurs associations, dont la PPMA, Eau et Rivière, l'association SOS et bien d'autres, parce qu'on considère que si on se met à dénitrater, et là, l'entreprise Veolia ex Vivendi pousse à la roue pour qu'on le fasse, eh bien, si on se met à dénitrater l'eau, ce sera casser le thermomètre, et à ce moment-là, on ne sait plus où on s'arrêtera. Donc là, il y a en ce moment une forte mobilisation pour... empêcher la communauté urbaine de Brest, qui a ce projet, d'installer une centrale de dénitratation sur l'usine, quoi.
En ce qui concerne la sécurité d'approvisionnement de la région brestoise, d'ailleurs, il y a un problème qui se pose parce que 350 000 personnes, tout d'un coup, qui seraient privées d'eau. Hein, imaginez, vous avez vu la voie ferrée, elle est à 15 mètres d'un côté de la rivière. La route de l'autre, elle est à 20 mètres de la rivière. Donc, on peut facilement imaginer un jour un déraillement, un wagon de produits toxiques qui se déverserait là. Ou alors, de l'autre côté, un camion-citerne. Hein. Hein. Alors, moi, j'ai assisté.
Ou un transport de déchets nucléaires.
Voilà. Peut-être, oui. Je ne sais pas s'ils passent par ici, ceux qui viennent de l'île Longue, mais pourquoi pas, hein, pour être plus discret, peut-être.
Hein. Ça, c'est pour jouer les oiseaux de mauvaise odeur.
Voilà, il ne faut pas... Exactement. Donc, un exercice auquel j'avais été invité, parce que ce n'était un exercice que les pompiers avaient fait, ils avaient imaginé donc un camion qui se déverse. Hein, et donc, c'était un exercice de formation. Il faut dire, ce n'était pas autre chose que ça. Et donc, en aval... Eh bien, les pompiers installaient un barrage flottant, comme il y a quand on a une pollution par les hydrocarbures en mer. C'était le même type de barrage, avec l'idée de mettre une pompe pour pomper la pollution quand elle arriverait. Puis il s'est passé ce qui s'est passé pour la Mococadiz, pour l'Erika et tout ça, c'est que les pompes sont tombées en panne, que le barrage a été enlevé. Enfin, on n'était pas déçus, quoi. Hein. Alors j'ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passerait si on avait un vrai accident? 350 000 personnes sans eau, qu'est-ce qu'on fait? On leur coupe l'eau directement?
Non, parce que là, les pompes marcheraient.
Ah oui, peut-être. Hein, peut-être. Mais le gros problème, c'est moins l'eau potable qui, après tout, peut-être qu'on trouverait des solutions, réquisitionnerait toute l'eau qui se trouve dans les grands magasins et ailleurs, mais que les toilettes, figurez-vous. On imagine les Brestois pendant une semaine sans pouvoir aller au water, les jardins publics tout autour. Ça ferait quand même des dégâts. Donc, la solution dans ce cas-là qui est envisagée, eh ben, ce serait de mettre des colorants, un colorant dans l'eau, de la façon que les gens, quand ils ouvrent le robinet, ben, ils voient une eau verte, ils se disent « on va quand même pas la boire », mais ils sauront que pour leur water, ils peuvent continuer. Donc, on arrive à des trucs qui sont littéralement hallucinants quand on y réfléchit, parce que quand on se projette face à un accident, on dit que faire, et voilà. Voilà ce qu'on a, par exemple, imaginé.
Une belle couleur verte.
Voilà.
Mais alors, justement, à propos de belle couleur verte... Guy Le Mahout, on a beaucoup entendu parler aussi de l'eutrophisation. Ici, il n'y a pas, trop de problèmes d'algues vertes et pourtant, apparemment, les Lornes charrient bon an mal an ces tonnes de nitrates jusque vers la mer.
Oui, c'est vrai. Non, on n'a pas trop ce phénomène-là parce qu'on est quand même dans une région tempérée ici. Et c'est vrai que la chaleur, c'est, même s'il fait toujours beau en Bretagne, il ne fait pas forcément très chaud. Hormis 2003, où on a pu avoir un phénomène d'eutrophisation sur un plan d'eau situé très bas sur la rivière, mais c'est quelque chose de particulier. Mais concernant ce que vous dites, les flux de nitrates, moi j'aime bien faire le parallèle souvent avec les pétroliers qui viennent, permettez-moi l'expression, dégueuler un peu sur nos côtes ici en Bretagne. Et c'est vrai qu'une rivière comme ici qui charrie 10 000 tonnes en flux de nitrates par an, multiplié par le nombre de rivières qu'il y a en Bretagne, c'est chaque année plusieurs Erika qui viennent déverser leur jules dans les rivières bretonnes et c'est dramatique. Alors autant un pétrolier qui vient vomir sur les côtes en France, ça fait monter tout le monde au créneau, au plus haut niveau de l'État d'ailleurs. Hein. Et c'est vrai qu'il est très facile de taper sur un capitaine véreux ou sur un armateur véreux qui est à son siège à des milliers de kilomètres de la France. D'autant que celui-là ne vote pas en France. Tandis que des tonnalisiers qui viennent déverser leur jules par dizaines, par centaines de milliers de tonnes dans les rivières bretonnes, ça, curieusement, ça ne fait pas monter les élus au créneau. Ou en tout cas, ils le disent pas très très fort. Alors c'est vrai que c'est quand même plus difficile de s'attaquer à ces administrés qui habitent souvent à quelques dizaines, voire quelques centaines de mètres de chez soi, plutôt que de s'attaquer à une multinationale qui fait dans le pétrole sur les côtes. Mais c'est comme ça, il faut faire avec. Moi, c'est un parallèle que j'aime bien faire.
Bon, mais moi, je vais vous embêter. Je vais continuer encore sur les algues vertes. Parce que vous dites que c'est uniquement une question de climat. Ici, c'est trop tempéré. Il se trouve qu'on était dans le nord de la Bretagne et qu'on a vu des plages entières recouvertes d'algues vertes et qu'il y a visiblement un très gros problème d'eutrophisation. Alors, est-ce à dire... qu'il y a encore plus de nitrates chez eux, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y en ait tellement là-bas et pas ici?
Alors il est évident que certaines rivières charrient, ont des problèmes de pollution beaucoup plus importants que celles-ci, donc ça doit certainement expliquer le phénomène. Il y a les algues vertes, il y a aussi les algues bleues, dont on commence à parler aussi depuis peu, qui sont les cyanobactéries, qui sont encore beaucoup plus dramatiques que les algues vertes. Mais bon, ici, sur les plages, il faut savoir que les landes se jettent dans la rade de Brest, et non pas sur les plages comme le nord de la Bretagne. Mais on n'a pas trop ce phénomène ici par rapport au nord de la Bretagne.
Gérard Bonfond.
Oui, alors les algues vertes, les algues bleues qui créent l'eutrophisation dans les cours d'eau douce, hein, en général se développent sur des cours d'eau qui vont très lentement sur les retenues. Hein. Déjà pour les lornes ici, sur la rivière, il n'y a pas de retenue de ce type. Le pompage de l'eau se fait directement dans la rivière, donc le flux lui-même, la rapidité de circulation de l'eau fait que ça ne se développe pas. Et comme le disait Gil Mahout, ça se développe sur des plans d'eau qui sont annexes parfois. Le problème des algues vertes est complètement différent. On ne peut pas vraiment parler d'eutrophisation là. Au contraire, ce qui se passe avec les algues vertes, alors c'est en mer déjà, hein. Ce sont des algues qui vont proliférer et qui vont ensuite venir sur les côtes. Et c'est là, sur les côtes, qu'elles vont pourrir, qu'elles vont dégager des odeurs épouvantables. Hein. À l'intérieur de la mer elle-même, jusqu'à présent, on ne parlait pas d'eutrophisation, on pourrait presque en parler maintenant, parce qu'on s'est rendu compte qu'elle continue à se développer, même en hiver, ce qu'on ignorait, qu'elle se développe dans les fonds assez profonds, ce qu'on ignorait aussi. Et on commence à voir qu'elle recouvre les fonds pendant toute l'année et qu'elles empêchent la croissance d'autres algues et que les pêcheurs commencent à se rendre compte qu'il y a certaines espèces de poissons qui sont en train de disparaître. Alors on pourra commencer à parler d'eutrophisation, y compris pour les algues vertes, hein, parce que l'eutrophisation, c'est quand une algue en pourrissant va tuer tout autour d'elle. C'est vrai, hein. Par contre, alors au niveau de la mer, on a l'équivalent des cyanobactéries, ce sont tous les microalgues qui se développent et qui sont des algues toxiques, des microalgues qui sont assimilées par les coquillages, hein, et qui rendent malades les coquillages et qui les font mourir. Hein. Bon, ça c'est dommage pour les producteurs de coquillages, mais surtout plus grave, certaines algues qui vont rendre malade le consommateur. Hein. Alors une algue microscopique comme l'algue Cendrium par exemple, qui est apparue d'abord dans la baie de Morlaix et qui maintenant gagne l'ensemble des bassins de production de coquillages, elle peut provoquer la mort par paralysie, hein, par asphyxie des poumons. Hein. On voit maintenant d'autres algues, comme l'une qui s'appelle Pseudonychia. Vous savez, au fur et à mesure, il y a des algues nouvelles qui arrivent, si bien qu'on apprend le latin au fur et à mesure, année après année, on apprend des mots latins qu'on ignorait. Bon, celle-là, elle provoque des troubles psychiques, des troubles de la mémoire, et puis voilà, on en découvre au fur et à mesure. Alors le problème, c'est que les médecins ne connaissent pas exactement les symptômes. Il y a peut-être déjà eu des accidents dus à ces algues-là, sans qu'on le sache. Et ça crée réellement un problème, d'autant plus que le touriste qui arrive chez nous, quand il y a une prolifération d'algues toxiques comme ça, il arrive à la plage, il n'y a pas une pancarte qui est là pour dire « attention hein ». C'est indiqué dans les journaux, mais le touriste ne lit pas les journaux, hein, forcément. Ou alors il y a un petit avis à la mairie, mais la première chose qu'un touriste fait quand il vient chez nous, c'est pas d'aller à la mairie voir les avis qui sont affichés. Quoi. Moi, j'ai interrogé récemment le préfet de région là-dessus. Je lui ai dit « Monsieur le préfet, quand vous savez qu'une algue hein, s'est développée et que les coquillages sont contaminés, qu'est-ce que vous faites ?» Ben, quand je suis informé, il a dit « Je préviens les maires ». Alors, bon, il y avait des maires dans l'Assemblée, j'ai demandé « Qu'est-ce que vous faites, messieurs les maires ?» Ben, on affiche, ou dans la mairie. Voilà. Mais par contre, mettre des panneaux sur les plages ou rendre ça public à travers des dépliants, évidemment, qui seraient donnés au syndicat d'initiative, il ne faut pas y penser parce qu'on imagine bien ce que ça donnerait. Quoi, hein. Le résultat, c'est qu'un jour, il va y avoir un pépin et on se rendra compte qu'il y a des tas de gens qui sont informés, mais qu'ils n'auront pas eu les réactions qu'ils devaient avoir. Quoi, hein. Et on va trouver un lampiste, je ne sais pas lequel, hein, qui sera responsable de tout ça. Alors que depuis très longtemps, on sait qu'on peut l'avoir, le pépin.
Il y a du vert tout le long des berges, il y a du vert dans la rivière, et pour une fois, c'est un joli vert.
Ouais, et puis ici, on est vraiment tout en haut de la rivière, ici, avec Vraiment une eau de très très bonne qualité à cet endroit-ci de la rivière. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on est vraiment pratiquement à la source. Si l'eau n'était pas bonne ici, je n'ose même pas imaginer ce que serait en bas.
C'est joli les mouvements de l'eau là. Il y a des truites ?
Oui, il y a des truites énormément. En plus ici la pêche est interdite pour des raisons de sécurité. Donc ça crée un peu une zone sanctuaire pour les poissons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la pluie qu'il y a depuis quelques jours, l'eau est un petit peu teintée, donc on ne les voit pas. Mais dès que les beaux jours vont revenir, dès que l'eau va s'éclaircir un petit peu, on verra des truites par dizaines ici, sous les ponts.
Et ensuite, elles descendent tout le long de la rivière ?
Non, pas forcément.
Pour les pêcheurs ?
La truite sauvage, dite truite fario, a un comportement assez sédentaire, hein, elle ne se déplace qu'à l'époque de la reproduction, c'est-à-dire à la fin de l'année, hein, fin de l'automne, au mois de décembre en général, où là elle migre pour regagner les zones de frais, c'est-à-dire essentiellement pour la truite des petits ruisseaux. Donc là elle quitte le cours d'eau principal, mais sinon non, elle reste à peu près au même endroit toute l'année.
Donc quand on est pêcheur, on doit aller là où sont les truites, c'est pas l'inverse, c'est pas les truites qui viennent...
Ah non, c'est vrai que les pêcheurs en eau douce, notamment les pêcheurs de carnassiers et de la truite, ont leur coin favori puisque la truite reste à peu près toujours au même endroit. Et on a remarqué que lorsqu'on prend un joli poisson à un endroit, quelques jours ou quelques semaines après, il y a encore un poisson quasiment de la même taille au même endroit. Et en fait, la truite, c'est comme tous les prédateurs, hein, c'est un animal opportuniste. Si elle se trouve à un certain endroit dans la rivière, c'est que, à mon avis, c'est un bon endroit où il y a à manger et c'est un bon endroit où on doit pouvoir se cacher. Donc s'il y a un gros poisson là, c'est que le coin est bon, comme on dit. Et si le coin est bon, quand le poisson n'est plus là parce qu'il a été capturé par un pêcheur ou parce qu'il est mort, en général, la place est prise par un autre, qui est en général un peu plus petit, mais qui devient assez gros aussi, assez rapidement. Donc voilà pour la petite histoire de la vie de la truite. Il y a encore beaucoup à dire, mais c'est un petit peu ça. C'est vrai que quand on est pêcheur... on va là où est le poisson, contrairement à la mer où en général là le poisson bouge beaucoup plus.
Kilmaout, votre association, la PPMA, l'association de protection de la pêche et des milieux aquatiques, a acheté un certain nombre de kilomètres de terre le long de cette rivière de l'Élorne. Alors est-ce que c'est pour avoir les meilleurs coins de pêche ?
Ah non, les pêcheurs ne sont pas égoïstes, les bons pêcheurs partagent beaucoup. Non, cette politique de maîtrise foncière a été engagée en 1976 pour deux ou trois raisons principales. La première, c'est préserver une pêche associative ouverte à tous, c'est-à-dire éviter aujourd'hui que les Lornes, qui commencent à avoir une notoriété nationale, soient privatisées. Et nous, on veut que demain, nos enfants et nos petits-enfants, en acquittant un simple droit de pêche à une association, puissent continuer à pêcher. C'est pour ça qu'on a acheté des terrains. Et la deuxième raison essentielle, c'est quelque part instaurer un périmètre de protection au bord des cours d'eau, parce que vous pensez bien que les terres qui nous appartiennent ne sont pas épandues de lisier, arrosées de Roundup ou plantées de maïs. Elles sont simplement entretenues. Et on va même un peu plus loin dans la démarche, puisqu'on met ces terrains-là à la disposition des agriculteurs, et notamment les agriculteurs bio.
Qui, eux, effectivement, ne vont pas épandre du lisier.
Ben non, puisque de toute façon, ils ont un cahier des charges tel qu'ils n'ont pas le droit, eux, de façon d'utiliser d'intrants. Ils peuvent utiliser, bien entendu, de l'engrais organique, mais pas trop. Et ils ont vraiment un cahier des charges draconien, ce qui fait qu'on a l'assurance, nous, que nos terrains ne seront pas épandus de produits chimiques.
Vous marquez même votre territoire avec des très jolies barrières en bois.
Ouais, ça, c'est un peu... notre côté perfectionniste, c'est-à-dire qu'on assiste maintenant à des délimitations de champs avec des choses hideuses, que sont des centres, des sacs en plastique de grande surface ou même des fils en plastique tendu. C'est hideux et je crois que l'environnement, c'est un tout. C'est des visuels. Et nous, on a pris le parti de mettre des belles barrières, comme on dit en breton, à la mode guéchal, c'est-à-dire à l'ancienne, qui sont des barrières que nos grands-parents faisaient en châtaignier, en noisetier et en chêne, et qui délimitent un peu l'entrée de toutes nos propriétés.
Tout de même, Guilmaout, toute la rivière ne vous appartient pas, loin de là, et vous nous avez montré tout à l'heure une zone de pisciculture industrielle, ça c'est quelque chose qu'on connaît peu encore.
Ouais, c'est vrai que le problème soulevé souvent en Bretagne est la pollution d'origine agricole, mais on oublie trop souvent justement ces dégâts là occasionnés par les piscicultures industrielles qui elles élèvent détruites dans des bassins, un peu comme les éleveurs élèvent des cochons, c'est-à-dire de façon très intensive, de façon concentrationnaire d'ailleurs, et ça crée aussi de gros problèmes en termes de qualité d'eau, puisque ces animaux-là aussi ont des déjections qui partent plus ou moins directement dans la rivière selon que l'installation est conforme ou pas conforme. Et l'autre problème posé par les piscicultures, c'est le respect du débit réservé, c'est-à-dire que les pisciculteurs ne doivent pas détourner la totalité du cours d'eau dans leur bassin, doivent laisser, le calcul est très compliqué, mais doivent laisser une grande partie de l'eau couler dans le lit naturel de la rivière. Et lorsqu'on a des phénomènes de sécheresse comme on a connu en 2003, dans beaucoup d'endroits, les piscicultures détournaient la quasi-totalité du cours d'eau.
Qu'est-ce que vous me montrez là?
Je trouve que la rivière s'est salie d'un seul coup. Hein.
Ah oui. Comme s'il y avait un apport de
ouais,
terre.
Mais je pense qu'ils doivent être en train de faire des travaux parce que j'en entends un tractopelle là, peut-être que c'est un peu le ruissellement. Bon, c'est pas très grave, hein, si avec ça. Ouais, c'est la turbidité de l'eau, les matières en suspension qui ne sont pas. Donc pas dramatique pour le cours d'eau.
Bon, mais quand même, la pisciculture.
Donc les piscicultures industrielles produisent donc des truites, sont soumises aussi aux mêmes règles que n'importe quel élevage, c'est-à-dire aux règles des installations classées, et ont des autorisations administratives qui leur permettent de produire X tonnes de truites par an. Et il y a une anecdote qui est assez symptomatique de ce qui se passe dans ce milieu-là aussi, ça date de l'été dernier, où une pisciculture dans le sud Finistère avait perdu, je crois, c'était 120 tonnes de poissons. Et le ministre Hervé Guémard, en villégiature dans la région, avait été appelé devant les caméras, les stylos et les micros des journalistes par les pisciculteurs pour leur montrer leur désarroi devant cette catastrophe-là d'une perte de 120 tonnes de poissons. Et ce qui n'a pas été dit, malheureusement, dans les médias à l'époque, c'est que ce pisciculteur n'était autorisé à produire que 30 tonnes. Donc, effectivement, quand on le sait après, ça relativise tous les problèmes de ces gens-là. Et personnellement, moi, quelqu'un qui est autorisé à produire 30 tonnes de poissons, qui en produit 120 tonnes et qui les perd, ça me donne vraiment pas envie de pleurer, quoi.
Guillaume Aoud, vous nous avez fait faire une sacrée promenade là. On a vu beaucoup de choses, beaucoup dont vous nous avez parlé, d'autres qui ont été simplement évoquées. Je pense par exemple aux zones humides, sur lesquelles il y aurait certainement des choses à dire. Et puis nous voilà de retour dans la maison de la rivière, qui est la maison de votre une maison associative dans laquelle on fait de l'enseignement, de l'éducation à l'environnement. Et je pense que c'est peut-être l'occasion pour nous maintenant d'aborder la question de l'importance de faire savoir un certain nombre de choses et de mobiliser les gens. Parce que cette Bretagne qu'on a vue assez violemment attaquée, c'est aussi une terre de lutte et de résistance.
C'est vrai que la Bretagne est montrée du doigt. Pourquoi ? Parce que il y a un débat en Bretagne. Il y a des régions en France, je pense, où la qualité de l'eau est pire qu'ici, ou en tout cas pas meilleure, et on n'en parle pas beaucoup. Chaque fois qu'on parle de mauvaise qualité d'eau, on montre la Bretagne du doigt. C'est dramatique ailleurs, pareil, et le débat existe ici, mais il existe à l'initiative du tissu associatif, qui est très dense, qui regroupe plein de sensibilités différentes, mais qui se retrouvent toutes sur le fond, c'est-à-dire la protection de l'environnement, et la qualité de l'eau en particulier pour certaines d'entre elles. Et ce mouvement-là, en fait, est né à la fin des années 60, en 1969, lorsque, pas très loin d'ici d'ailleurs, à Carhaix, est née l'association APPSB, qui s'appelait APPSB à l'époque, l'Association pour la protection du saumon en Bretagne et en Basse-Normandie, qui est aujourd'hui devenue l'association Eau et Rivières de Bretagne. Et en fait, toute cette mouvance-là, un peu post-68arde, est née parce que certains militants à l'époque avaient cru déceler déjà une dérive de l'agriculture. On a vu d'ailleurs depuis une trentaine d'années ce que ça a donné. Donc ces gens-là ne se sont pas trompés. Et en fait, le départ pour fédérer un petit peu toute cette mouvance-là associative et environnementaliste, ça a été en fait de nettoyer des rivières. Et les premiers grands chantiers de nettoyage de rivières ont été réalisés sur le Scorff dans le Morbihan, une rivière, une superbe rivière aussi, et sur les Lornes ici dans le Finistère. Donc c'est vrai qu'il y a toute une histoire ici sur les Lornes qui est plus que trentenaire et qui fait qu'aujourd'hui il y a toute une mouvance associative sur ce bassin-là qui est très très dynamique, qui est très écoutée, pas toujours entendue, mais je veux dire ça c'est la règle du jeu. Et c'est vrai que ce mouvement associatif-là permet aujourd'hui de mettre sur la table la réalité quotidienne de des pollutions. Ça ne fait pas toujours plaisir, mais je crois que c'est aussi important qu'il y ait un débat. Et c'est comme ça, mon côté optimiste me fait dire que c'est comme ça que les choses avanceront, même si ce que je vois au quotidien me rend plutôt pessimiste. Mais bon, la nature humaine est ainsi faite, donc j'espère que ce mouvement associatif continuera, prendra de l'ampleur, il prend de l'ampleur d'ailleurs. Et je pense qu'on arrivera à terme à retrouver un environnement, à défaut d'être de bonne qualité, au moins de meilleure qualité que ce qu'il est maintenant.
Gérard Borvon, vous faisiez partie de ces nettoyeurs de rivières ?
Oui, je m'en souviens, c'était passionnant. Moi, je m'étais engagé dans mon approche du mouvement écologiste, ça avait été Plogoff, centrale nucléaire. Et donc, il y avait toute une équipe de jeunes très engagés, des comités d'action qui soutenaient Plogoff. Il y en avait un peu partout.
Ça commençait bien, puisque vous aviez gagné les seuls dans toute l'histoire du mouvement nucléaire.
Bien sûr, mais quand j'ai connu l'association APPSB, on n'avait pas encore gagné. Et un jour, j'ai vu arriver un militant de cette association, jeune aussi, Jean-Yves Karmarek, en nous disant, les gars, la société contre laquelle vous êtes en train de vous battre, nous déjà, c'est la même chose qu'on fait dans le domaine de l'eau et du saumon. Alors moi, j'étais un peu interloqué quand même, le saumon, le nucléaire, même combat. Et en fait, il arrivait avec un montage diapo sur les problèmes de pollution ici, mais quelque chose d'extraordinairement convaincant. Hein. Si bien qu'on s'est retrouvé d'une part avec les militants d'eau et rivière, enfin de la PPSB de l'époque, qui sont venus à Plogoff également, qui se sont engagés d'ailleurs de façon très, très efficace dans l'action, mais qui en retour nous ont dit, les gars, il faudrait venir peut-être avec nous sur le chantier ici de Les Lornes. Et on s'est retrouvés peut-être 300 jeunes qui n'imaginaient jamais qu'ils auraient eu à côtoyer des pêcheurs pour aller débroussailler une rivière. Ça avait été une journée formidable, quoi, hein, qui s'est terminée le soir par un fest-noz avec de la lutte bretonne. Enfin bref, ils avaient mis le paquet. Hein, c'était vraiment formidable, quoi. Et à la sortie de ça, il y a un certain nombre de gens convaincus qui étaient déjà des amoureux de la rivière. Moi, c'était mon cas, qui ont adhéré à l'association, quoi. Et donc, je me suis retrouvé partant dans une lutte sur le nucléaire, tout d'un coup, militant, enfin disons adhérent tout simplement, hein, d'une association de protection du saumon.
Et de là, militant d'une association de protection de la qualité de l'eau.
Voilà. Hein, en général, du coup, on a créé récemment une autre association qui s'appelle SOS, hein,
tout simplement. Le O s'écrivant EAU.
Voilà, le O s'écrivant EAU, tout simplement parce que on s'est rendu compte, enfin ici sur le secteur, qu'il fallait lier les deux problèmes, la qualité dans l'environnement, mais aussi tout ce qui est la gestion de l'eau. Alors en particulier, tout ce que la pollution peut rapporter à certaines entreprises comme Veolia, Vivendi, etc., etc. Comment, d'une certaine façon, on pollue les gens, mais encore en plus, on les vole, quelque sorte, à travers la facture, à travers les redevances pollution qui paient, etc., etc. Donc, on a étendu cette prise de conscience, hein, de la perte de qualité de l'eau avec, justement, tous les défauts qu'il y avait dans notre système de gestion, en particulier l'irresponsabilité des pouvoirs publics, hein, qui laissent faire et qui protègent finalement tous les pollueurs, quoi.
Mais peut-être que ce qui caractérise finalement la Bretagne, moins que la pollution qui la frappe, qui, comme vous le disiez, Guillaume Maout, n'est pas une spécificité bretonne, on retrouve ça partout ailleurs, peut-être ce qui vous caractérise ici, c'est d'avoir pris très tôt conscience du lien entre les différents problèmes, ce qui crée un réseau associatif particulièrement dense et particulièrement enchevêtré, je dirais. Mmh. On retrouve les mêmes personnes dans 10 associations différentes, et c'est pas parce que vous auriez un tempérament associatif particulièrement virulent, mais qu'en effet, on peut pas se battre contre le nucléaire sans se battre contre les empêcheurs de saumonner en rond, et etc., etc.
Oui, non, mais c'est vrai, il y a tout un réseau associatif, et on est parfois dans plusieurs associations en même temps, et ce qui est caractéristique, c'est qu'on ne se fait pas concurrence, quoi. C'est pas des associations qui essayent de se piquer les adhérents, etc., c'est pas le problème. Au contraire, c'est des associations qui, sur un problème donné, utilisent leurs forces. Elles se sont créées spontanément, localement, il y a des grosses associations comme Oui Rivière, Bretagne Vivante, qui sont capables d'être le moteur de tout ça, mais un peu partout, des petites associations qui se créent sur un problème et puis qui continuent à travailler, qui se retrouvent dans les grandes mobilisations. C'est intéressant, hein, c'est des liens très très forts qu'il y a entre les gens.
Mobilisation relativement bien sûr facile à obtenir.
Ah oui. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de régions où on est capable, sur les problèmes de l'eau, de réunir 10 000 personnes pour une manifestation. Hein. Et puis des manifestations qui se tiennent sur des sites... c'est pas la manifestation en pleine ville, avec les banderoles, les slogans et tout ça. C'est souvent des manifestations qui se font en pleine campagne. C'est assez festif, mais c'est tout à fait visible. Hein. Non, c'est vrai. Et je crois que l'image de marque de la Bretagne... Moi, j'ai pas mal circulé dans d'autres régions, j'étais invité. Finalement, c'est autant l'image d'une région qui se bat pour son environnement, donc c'est tout à fait positif, hein, qu'une région qui est polluée, quoi. Parce que les gens se rendent compte que ce qui manque chez eux, souvent, c'est pas la pollution, ils l'ont chez eux, mais ce qui leur manque, c'est la mobilisation. Mais c'est vrai, quoi. Et d'une certaine façon, on nous appelle ailleurs pour venir faire partager notre expérience. Le problème, c'est qu'on a déjà tellement à faire chez nous qu'on peut pas aller partout, mais c'est un peu comme ça, hein. Moi, l'association Oui Rivière, moi, je trouverais, elle aurait des ramifications dans la France entière, ce serait pas mal, mais c'est pas les militants d'ici qui peuvent organiser ça, quoi.
Et oui, parce que comme vous le dites si bien, il y a pas mal à faire ici, quand même. On est loin d'une situation pacifiée. Là, en ce moment, ce qui vous motive, c'est le risque qui pèse sur la directive Voynet-Pinsec.
Oui, effectivement. Alors, en ce moment, ce qui est assez impressionnant, c'est la concentration qu'on voit se faire dans les zones les plus polluées de la production porcine. Alors, c'est dû au fait que on est en train de revoir une directive qui avait été décidée par Dominique Voynet et Louis Le Pinsec, hein, quand ils sont arrivés ministres de l'Environnement et de l'Agriculture. Cette directive arrêtait l'augmentation des exploitations, des porcheries, dans les zones dites en excédent structurel. Hein, les zones qui sont donc déjà les plus polluées.
Elle stoppait le phénomène là où il était.
Voilà,
elle n'essayait même pas de monter à rebours. C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de baisser le nombre d'exploitations ou le nombre de têtes par exploitation, mais simplement d'arrêter là où on était.
Voilà, c'est ça, de geler. Parce qu'en plus, dans toutes ces zones-là, s'il y avait un problème, c'est qu'il y avait eu des fraudes massives. Hein. Donc, soit on revenait au point de départ, aux autorisations initiales, ce qui aurait été logique. Hein. Mais pour pacifier la situation, ce qui avait été décidé, mais par Corinne Lepage d'ailleurs d'abord, c'était d'arrêter les effectifs à la date de 1994. Hein. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'à nouveau, et on va laisser les effectifs augmenter. Alors, quel est le procédé qui a été trouvé? Eh bien, c'est d'autoriser des exploitants qui sont sur ces zones en excédent structurel à racheter, parce que maintenant, il y a un marasme dans l'agriculture. On voit des tas de gens qui arrêtent le métier, hein, qui laissent leur exploitation. Donc, on autoriserait ces gros exploitants à racheter des exploitations, mais quelquefois très loin de chez eux, et à rapatrier l'effectif de ces exploitations dans leur propre exploitation, qui est généralement une exploitation... comme ici, hein, autour du bassin des Larnes, qui sont dans des zones très fortement polluées. Hein. Alors non seulement ils pourraient racheter, par exemple, un éleveur porcin pourrait racheter des exploitations de porcine, du porc, mais ils pourraient aussi bien racheter des exploitations de volailles, des poulaillers, qui sont particulièrement en crise en ce moment, rapatrier ça à son siège, et il aurait même l'autorisation, si la circulaire était revue, eh bien de transformer ses volailles en cochons. Ou encore, s'il a racheté une exploitation bovine, à azote égal, comme le dit le ministère, de transformer ses bovins en cochons. Si bien qu'il y a déjà, et Guillaume Mahout pourrait le confirmer, on voit dans les organismes professionnels des appels, hein, pour racheter. On invite les agriculteurs à téléphoner dans tel et tel endroit, eh bien, pour proposer une exploitation à vendre. Hein. On voit ça, c'est libellé, cherche droit à produire, même, c'est indiqué comme ça. Il y a même eu un drôle de phénomène qui s'est passé, c'est que la zone qui est pratiquement la moins polluée, qui est le Morbihan, eh bien, on a vu, qui est aussi la moins développée au point de vue grosse exploitation, on a vu des tas de petites exploitations rachetées par les gros producteurs des Côtes d'Armor et du Finistère. À tel point que la Chambre d'agriculture du Morbihan s'en est émue parce qu'ils voyaient disparaître leurs exploitations. Et ils ont demandé au préfet d'arrêter ce phénomène que pourtant le préfet avait encouragé. Si bien que le préfet a décidé que quand même on ne pourrait plus transférer une exploitation d'un département sur un autre. Alors on va faire des frontières départementales. Alors les frontières en question, ça n'a rien à voir avec l'environnement, hein, ni la qualité, parce que tout devrait se régler en fonction du bassin versant et non pas une frontière des départements. Mais simplement, ce sont les chambres d'agriculture qui sont organisées au niveau départemental, qui sont en train de se faire une sacrée concurrence. Et voilà tout. Quoi. C'est assez dément ce qui est en train de se passer. Alors les associations se mobilisent, hein, font des pétitions. Il y a au moins déjà plus de 20 associations qui sont regroupées sur le secteur pour que justement cette circulaire Voynet-le-Pin-Sec ne soit pas remise en cause.
Pour nous contacter, il y a toujours notre numéro de téléphone, le 01 56 40 36 72, ou notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Sur notre site internet, vous pourrez consulter notre revue de presse web hebdomadaire, notre site franceculture.com.